Bienvenue dans Adolescence, le podcast qui nous apprend ce que l'on n'a pas appris à l'école. Je suis Louise Aubéry et j'ai souhaité demander aux meilleurs experts de m'aider à affronter la vie d'adulte. Dans cet épisode, j'accueille le psychiatre David Gourion, expert de la santé mentale et des adolescents, pour répondre à la question « Peut-on réparer son éducation ?» Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous taguer dans vos posts et dans vos stories @franceinter et @louiseaubéry. Et je vous souhaite une très bonne écoute.
Je me suis toujours demandé comment je serais une fois adulte.
Je veux parler à un adulte!
Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants.
Sois jeune et tais-toi.
Être un adulte, définition.
Rentre chez toi et grandis.
Pour moi, adulte, ça veut dire responsable de ses actes.
Ça, je dirais de grandir.
Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On dit dans le livre, les serpents boas avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur ? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier, et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître, du premier coup d'œil, la Chine de l'Arizona. C'est très utile, si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'avais toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait « C'est un chapeau ». Alors, je ne lui parlais plus ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Bonjour David Gourion.
Bonjour.
Tu es psychiatre.
Oui.
Auteur. J'ai lu un extrait de l'incipit du Petit Prince, livre que personnellement j'ai eu du mal à comprendre quand j'étais enfant et qui prend tout son sens maintenant que je suis adolescente. Qu'est-ce qui t'évoque ce texte ?
Moi, il me fait rêver, il me ramène vraiment au monde de l'enfance. Et merci de l'avoir lu comme ça parce que c'était touchant. Il m'évoque le fait que au fond, les adultes, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand il parle, et il n'a pas totalement tort, que les adultes ont perdu quelque chose de l'imagination, de la créativité des enfants. Ils deviennent sérieux. C'est une perte, en fait, de devenir adulte. Et ce qu'il nous dit, au fond, c'est qu'il faut essayer de rester un petit peu enfant. Il faut essayer de ne pas perdre ça de vue. C'est comme ça que je l'entends, moi.
Qu'est-ce qui fait qu'on le perd et qu'est-ce qui nous permettrait de le conserver ?
Ce qui fait qu'on le perd, c'est que y a une série de déceptions, en fait. Le contact avec le réel, quand on grandit, c'est un peu difficile. Il y a des désillusions. Les ados disent « je suis beaucoup, je suis blasé », c'est une expression qui est à la mode. Et peut-être qu'une des grandes désillusions, d'ailleurs, de l'adolescence, on parle beaucoup d'âge ingrat, on renvoie beaucoup, même une image physique un peu péjorative, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'en ai vaguement le souvenir encore, c'est que quand on est petit, quand on est enfant, tout le monde nous regarde avec un sourire, on est bienvenu. On est accueilli. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, et tous les enfants sont magnifiques, sont merveilleux, et on leur sourit, on a envie de leur parler, et plus ils sont petits, plus ils sont mignons. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un âge où on perd un peu ça. Mmh. C'est terminé, le côté où il est tout mignon et on s'approche de vous. D'un seul coup, vous passez et vous n'existez plus, voire même, en tant qu'adolescent, surtout si vous êtes un peu boutonneux, un peu etc., vous êtes dans l'âge ingrat, on vous évite. Donc il y a déjà, je trouve, cette première perte. Et ce qu'il nous rappelle, Saint-Exupéry, c'est que ce qui compte le plus, ce sont les valeurs. C'est très métaphorique, très symbolique, c'est presque un peu fou, hein, le petit prince, il y a quelque chose d'une pensée presque un peu psychotique, un peu déconnectée du réel, extrêmement poétique, extrêmement magique, et il revient sur des valeurs essentielles du lien, du temps que tu donnes à ta rose, etc. C'est peut-être ça, réussir le passage à l'âge adulte sans perdre de vue l'enfant qu'on était avec les valeurs essentielles.
C'est amusant parce que j'ai l'impression qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, personnellement, ça m'énervait qu'on me parle comme à une enfant. Je trouvais ça condescendant, on me parlait comme si j'étais stupide. Et c'est vrai que désormais, à l'âge avancé de 27 ans, j'ai envie qu'on me parle comme à une jeune, voilà, comme si finalement le temps n'était pas passé. Comment expliquer ce paradoxe et surtout comment les réconcilier ?
Je pense qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant dans le lien entre les adultes et les enfants. La façon dont les adultes parlent, savent parler ou ne savent pas parler aux enfants, en dit long sur eux-mêmes. D'ailleurs, le petit prince sait comment parler aux enfants en n'étant pas complètement déconnecté de celui qu'on a été. Et souvent, les adultes sont un peu perdus face aux enfants. Ils sont un peu, tu le disais, je sais pas si on se tutoie, on se voit, condescendants. Il y a ce côté-là. Et je sais pas si tu l'as remarqué, mais certains arrivent à garder un lien très fort avec les enfants. Et pas forcément parce que c'est leur métier, mais parce qu'ils ont, je sais pas, ce sont des conteurs. Ils ont ce côté, ils ont gardé une connexion avec le monde imaginaire de l'enfance.
Pour toi, sur quoi est-ce qu'on se fourvoie sur le passage à l'âge adulte ? C'est-à-dire, comment est-ce que c'est considéré, alors que comment tu penses qu'on devrait le considérer ?
Je ne sais pas bien si c'est considéré aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rituel de passage. Il y a encore des symboles, le bac, et encore tout le monde ne le passe pas, etc. Pour ceux qui sont religieux, il y a les communions, mais on n'a plus tellement de rituels de passage. Et d'ailleurs, le titre de cette série, Adolescence, le dit bien, jusqu'à quand ça dure ? Et quand est-ce qu'on devient adulte ? Et qu'est-ce que c'est qu'être adulte ? Je ne sais pas bien, moi, ce que c'est qu'être adulte, parce qu'à vrai dire, je connais des enfants qui sont plus sages et plus matures que bien des adultes, et je connais des adultes qui ont l'air, pour certains, très très âgés, et qui ont la maturité, voire non pas la maturité d'enfant de 7 ans. Donc c'est très difficile de répondre à ça. Je pense qu'on se fourvoie sur quelque chose qui est l'apparence. L'apparence ne dit rien.
Est-ce que devenir adulte, c'est une fatalité ou c'est un choix ?
C'est une question pas simple. On y est un peu condamné. Et je redis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'un deuil, hein, assez douloureux de l'enfance, de l'adolescence, des pertes. Moi, je me souviens beaucoup, enfant, de la représentation que j'avais de ce que c'était qu'être adulte. C'était à la fois deux choses. C'était pouvoir réaliser des rêves, avoir une autonomie, le truc qui fait rêver, la liberté. Mais c'était aussi pour moi le monde des soucis. Les adultes, c'était voilà, ceux qui portent sur leur dos tout un fardeau rempli de soucis. Et donc, on avance un peu vers ça sans trop savoir à partir de quand on va devoir
l'affronter.
Et puis, dans cette balance entre d'un côté, tu vas gagner en liberté, de l'autre côté, tu vas en prendre sur le dos. Est-ce que je serai perdant ou gagnant dans l'équilibre ? C'est pas simple. Et certains refusent de jouer le jeu, hein, de la part responsabilité aussi.
Qu'est-ce qu'il faut acquérir dans l'adolescence pour être prêt à ce passage à finalement la responsabilité ?
Quelque chose qui fasse que la déception ne soit pas tellement forte que tu en fasses une sorte de deuil définitif qui te conduise au cynisme, au nihilisme, à l'abandon de toutes tes valeurs, ce qui présente un risque à titre individuel, mais aussi à titre collectif, parce que je pense que c'est comme ça que peuvent émerger des fascismes, des extrémismes, quand une déception, toute une génération a le sentiment d'être désabusé, d'être fourvoyé, d'être trahi par la génération d'avant. Et donc c'est peut-être d'avoir cette souplesse-là qui consiste à dire « oui, je vais devoir faire le deuil de quelque chose, mais pour autre chose, c'est une transformation, c'est pas juste une perte ». Et c'est pas simple de savoir ce qu'il y a au bout parce qu'on, par définition, on ne le sait pas à l'avance. Ce risque-là, j'étais un grand adolescent, un grand lecteur de Balzac. Il l'avait très bien décrit dans son Lucien, Les Illusions Perdues. Lucien, il arrive, il veut être poète, il veut être écrivain. Il vient de sa province et il a des rêves de grandeur, des idéaux. Et puis il se rend compte que c'est compliqué. Et puis il va être journaliste, il n'est pas écrivain, et puis il va se rendre compte que pour arriver là où il veut aller, il doit trahir son meilleur ami, il doit lâcher ses valeurs. Il fait le choix à un moment donné du deuil de toutes ses valeurs, du cynisme absolu. Il n'y a rien au fond, le nihilisme, seul compte l'endroit où je veux arriver. Et peut-être que bien réussir la transition à l'âge adulte, c'est accepter qu'on doit faire le deuil de ce qu'on ne pourra pas avoir, mais pour autant ne pas perdre de vue l'essentiel.
C'est dur, hein, dans ce paradoxe finalement de l'injonction implicite qu'on nous renvoie quand on est adolescent ou jeune adulte, de « fais ce que tu veux, mais réussis ta vie ». Et je pense que, est-ce que, je ne sais pas, c'est dans les jeunes que tu rencontres, tu vois, s'il y a cette difficulté à associer ces deux idées, mais j'ai du mal à voir comment on peut associer performance et équilibre émotionnel.
Ça, c'est une super question et c'est un vrai, en psychologie, on appelle ça un double lien, une injonction paradoxale. Il y a une petite blague juive qui la résume bien, c'est une mère juive qui offre à son fils deux cravates, tu la connais peut-être, une bleue et une rouge. Pour faire plaisir à sa mère, la semaine d'après, il met la rouge. Et sa mère lui dit donc, t'as pas aimé la bleue, je suis vraiment extrêmement triste. La semaine d'après, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'autre pour lui faire plaisir, il met la bleue, et la mère lui dit, mais t'as pas mis la rouge, donc t'aimes pas la rouge. La troisième semaine, il arrive et il a mis les deux cravates, le pauvre, il est perdu, il sait pas quoi faire. Et là, sa mère lui dit, mais t'es complètement fou, mon pauvre fils, tu mets deux cravates. C'est ça une injonction contradictoire ou un double lien, c'est donner deux objectifs contradictoires. Et en effet, nos ados, nos enfants, on leur dit beaucoup... Ce que tu as dit, il faut être heureux, fais tes choix, fais ce qui te plaît, suis tes valeurs. Mais de l'autre côté, parce que les parents sont un peu anxieux et qu'ils ont eu eux-mêmes des difficultés, ils savent ce que c'est que la vie chère, fais en sorte quand même de bien gagner ta vie. Parce que ça te permettra d'être heureux, etc. Et si on réfléchit bien, comment ils font avec cette double injonction totalement contradictoire? Et ils s'en débrouillent pas toujours si bien que ça. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui est le plus important dans les deux? Et qui peut répondre à ça? Mais non, j'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse à ça, mais en fait, on les met face à ça.
Ouais.
Et en plus, on leur demande d'y répondre de plus en plus tôt, parce que dès la troisième, on commence à leur demander, je crois que même notre ministre disait que dès la maternelle, il fallait aborder la question de leur carrière plus tard. Donc cette injonction paradoxale, elle leur est présentée de plus en plus jeune et de façon, je trouve, de plus en plus brutale, parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe et brutal.
Est-ce que les jeunes vont plus mal aujourd'hui? Ou est-ce que finalement c'est juste qu'on est plus à l'aise avec le fait de parler de sa vulnérabilité, de sa santé mentale?
C'est une autre super question. Si tu as des questions plus faciles, je suis preneur.
Non, j'aime que les dures.
Je pense les deux, mon capitaine, ma capitaine, parce que d'une part on en parle plus et ça c'est une très bonne chose et tu y contribues et plein d'autres médias et on parle plus de santé mentale. Stromae l'a chanté, Pomme l'a chanté, c'est très bien. Et de l'autre côté, on voit des indicateurs qui, avec des mesures précises, des échelles d'évaluation, les mêmes il y a 10 ans, montrent qu'il y a une augmentation des problèmes d'anxiété et de dépression chez les jeunes. Ceux qui savent l'expliquer de façon simple, moi je leur dis chapeau. Expliquer des problématiques complexes avec juste une explication, c'est les réseaux sociaux, c'est le Covid, c'est la guerre, c'est le déclin économique, c'est la politique internationale. Moi je dis bravo, je pense que c'est multifactoriel complexe. Mais force est de constater que c'est une réalité et qu'il y a une réalité très préoccupante. D'autant qu'en tant que psychiatre, je sais que l'émergence, on sait, les psychiatres, que l'émergence des problèmes de santé mentale, dans 80% des cas, c'est entre 15 et 25 ans. C'est-à-dire un trouble commence entre 15 et 25 ans. Que ce soit un trouble anxieux, un trouble dépressif, un trouble bipolaire, une addiction, un trouble du comportement alimentaire, c'est vraiment un âge de très grande vulnérabilité et en même temps, c'est l'âge de tous les possibles. C'est ça qui est incroyable.
Ça m'a toujours fasciné le concept de crise d'adolescence. Perso, j'ai l'impression que j'en ai jamais faite. J'ai l'impression qu'on donne vachement cette étiquette à simplement la prise de conscience qu'on a une identité et qu'on peut dire ce qu'on pense. Est-ce que c'est pas finalement juste une jolie façon d'enrober le mal-être des ados qui ont du mal à trouver leur place dans la société?
Si, si, j'aime beaucoup la complexité de tes questions parce qu'elles renvoient à des réponses forcément complexes. Évidemment, moi je me méfie toujours de ce vocable crise d'adolescence parce que il recouvre tellement de situations tellement différentes. Alors, il y a cette idée, ce stéréotype, j'ai envie de dire, que une adolescence réussie, c'est une adolescence où on a un peu, entre guillemets, tué le père, on s'est affirmé, on a pu dire aux parents « vous êtes des cons, je vous dépasserai », et cette affirmation de soi, elle donne de la force plus tard dans l'existence. Je suis pas si sûr. Je pense que pour certains, c'est vrai. Je pense que pour d'autres, c'est pas nécessairement le cas, parce que tous les parents n'ont pas eu besoin qu'on puisse leur dire qu'ils sont cons pour l'admettre d'eux-mêmes. Et certains ont eu l'intelligence très tôt d'avoir cette souplesse-là que d'entendre que les enfants n'ont pas toujours tort. Donc je ne crois pas qu'il y ait cette nécessité-là absolue chez chacun. Et je crois que parfois on met beaucoup sur le dos cette fameuse crise d'adolescence qui, je crois, n'existe pas, n'a pas de définition clinique concrète des situations qui sont parfois dramatiques.
Qu'est-ce que ça signifie pour toi, réparer son éducation ? C'est un peu le thème de notre cours d'aujourd'hui. Et surtout, comment est-ce qu'on fait ?
Alors là, je vais mettre un peu joker. C'est-à-dire que je vais te demander de m'aider à définir ce que c'est pour toi que l'éducation et ce que c'est que pour toi réparer.
Je me dis, pour chaque parent fait de son mieux, évidemment, et ça mène forcément à des manquements parce qu'on ne peut pas donner une éducation parfaite. Et je me demande quels sont les manquements qui peuvent avoir des conséquences assez dramatiques à l'âge adulte et comment finalement on pourrait essayer de compenser les manquements qu'on n'a peut-être pas reçus de son éducation, que ce soit de sa famille, que ce soit de l'école. Mais moi, je vois comme ça des gens autour de moi qui ont dû se construire avec un seul parent ou pas de parents du tout ou des parents dysfonctionnels. De quoi est-ce que fondamentalement, on a besoin de vraiment d'essentiel pour affronter l'âge adulte ?
C'est compliqué parce que tu vois, il y a plein de questions, de sous-questions dans ce que tu as dit. C'est-à-dire, est-ce que l'éducation, c'est ce qu'on dit à nos enfants, ce qu'on essaye de leur expliquer, de leur transmettre en termes de valeurs ? J'entends un peu ça dans le mot éducation, il y a l'idée d'un apprentissage, de quelque chose qu'on dit à nos enfants. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que nos enfants, en particulier à l'adolescence, où ils écoutent d'une oreille, ça ressort de l'autre, retiennent le plus de nous. Je crois que c'est plus ce qu'on leur montre, les parents qui disent « faut pas se laisser faire », puis qui dans la queue se font pousser, les parents qui m'amènent leur ado pour dire « il faut lui expliquer que le cannabis, c'est pas très bon », et l'ado me dit « mais moi je sens la fumée de cannabis tous les samedis soirs sous leur porte ». Donc ce qu'on montre de sa façon d'être au monde, de son rapport aux autres, c'est pas quelque chose qui peut s'expliquer avec des mots comme une éducation. C'est quelque chose qui se montre. Et puis je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus fondamental que ça, qui est ce qu'on appelle les liens d'attachement. La façon dont on crée un lien avec cette personne qu'on a convoquée sur Terre, qui a quand même rien demandé, s'appelle un enfant. Et je vais pas rentrer dans les théories de l'attachement, mais c'est assez passionnant. Tu sais, c'est parti aussi de l'observation des animaux. Le petit caneton, quand il sort de l'œuf, il y a une sorte d'empreinte biologique qui va suivre la première personne. Si c'est sa mère, Cane, il va la suivre, mais si c'est un être humain, il va te suivre. Et il crée un lien d'attachement très fort. C'est une empreinte biologique. Et les êtres humains, comme tous les mammifères, on a aussi ce lien d'attachement et cette empreinte biologique. Et on va créer un lien d'attachement en fonction de ce qui nous est appris, de ce qu'on observe, et de l'ambiance émotionnelle que nos figures d'attachement, en l'occurrence souvent nos parents, dégagent. Cette ambiance émotionnelle, c'est un peu comme une lumière d'ambiance. Tu vois, il y a des lumières agréables, douces, paisibles, et puis il y a des ambiances agressives, instables, chaotiques, des flashs dans la figure, etc. Ça, on va l'ancrer à l'intérieur de nous, et très très tôt, et ça va définir une forme de mode d'attachement pour toute la vie. On sait qu'on va, ça va être très important dans notre capacité à créer des liens d'attachement plus tard avec les gens importants, avec les personnes qu'on va aimer dans la vie sentimentale, un jour avec nos enfants, avec nos amis. Si ce lien était très sécure, très chaleureux, on aura appris quelque chose de la sécurité, très très petit. Si on n'a pas appris ça, je ne dis pas qu'on ne peut pas le réparer plus tard. Il y a des thérapies pour ça. On voit des gens qui ont vécu des histoires extrêmement chaotiques, mais ça ne passe pas par une sorte d'éducation avec des mots. Ça passe par quelque chose qui est très expérientiel. Et donc moi, je dis beaucoup ça aux parents, et en particulier, je vois beaucoup d'adolescents, de parents d'ados, qui sont parfois dans des situations de grande rupture, ils ne se parlent plus, ou de conflits de valeurs, ou de crises, de colère, les parents très arc-boutés sur les notes, les devoirs, les ados ayant très envie de vivre leur vie sociale ou autre, etc., et ne se retrouvant pas. Et j'insiste beaucoup sur cette notion d'ambiance émotionnelle. C'est-à-dire que même si vous êtes adolescent, vous avez besoin que le lieu dans lequel vous rentrez le soir après les cours, etc., c'est pas toujours facile la vie d'ado, il y a le harcèlement, etc., il y ait là cette lumière douce, ce foyer, quelque chose d'agréable, qui soit au-delà des mots, qui soit au-delà des contraintes, qui soit au-delà de l'éducation. Et pardonne-moi, au fond, je trouve le terme éducation renvoie à quelque chose, tu vois, d'un formalisme, d'un formatage. Et au fond, je ne crois pas qu'il faille chercher à formater nos enfants, mais plutôt à leur donner, comme au fond des jardiniers, des bons jardiniers, un terreau favorable et un soleil favorable.
Qu'est-ce que tu observes, justement, avec les ados et les familles que tu accompagnes, d'écueil de la part des parents qui, j'imagine, hein, souhaitent bien faire, mais tu vois, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais dire là aux parents d'ados? Parce que tu dis, j'observe trop souvent ça, et c'est plus nocif que bénéfique.
Une vision à trop court terme, centrée sur des objectifs, qui sont souvent des notes. On est un pays où les notes, ça compte énormément, où les diplômes, ça compte énormément, je pense, beaucoup plus qu'en Amérique du Nord, beaucoup plus que dans d'autres pays. Le diplôme, la note, etc., est quelque chose qui est très petit et surinvesti dans notre pays, avec une grande anxiété parentale qui renvoie parfois à un stress scolaire majeur chez les adolescents et chez les étudiants. Et ça, c'est très pourvoyeur de troubles anxieux, du fait que vos adolescents vont ensuite devenir des adultes anxieux qui vont devoir venir voir des médecins comme moi. Et donc, je dis beaucoup aux parents, attention à ne pas être d'un objectif court terme qui serait la note ici et maintenant, qui ne veut pas dire grand-chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire et que ce n'est pas important l'école, ce n'est pas du tout ça. Mais qu'il faut le réintégrer dans quelque chose de beaucoup plus global et que le bien-être, l'ambiance émotionnelle, la façon dont vous gérez le lien. On est des êtres de lien. Voilà. S'il fallait le dire en une phrase, plus que les notes, souvenez-vous que vous êtes des êtres de lien et que ce que votre adolescent ou votre adolescente gardera de vous plus tard, c'est la mère ou le père qui lui hurle dessus parce qu'il a une mauvaise note et ça, c'est dommage. Je pense que les parents, ils sont parfois un peu démunis, un peu épuisés, le nez dans le guidon. On bosse tous beaucoup trop, on n'a pas le temps, etc. Je dis, intéressez-vous aussi. Je ne sais pas si tu as vu cette série Adolescence, forcément, où il y a un message qui est en fait, les parents, intéressez-vous à ce que regardent vos adolescents. Arrêtez de leur dire c'est idiot. TikTok, machin, c'est idiot. C'est peut-être idiot pour vous, c'est juste, ce n'est pas votre univers, vous ne le connaissez pas. Prenez le temps, 10-15 minutes, ça ne vous prendra pas des heures, un dimanche de temps en temps, de demander à votre ado de vous montrer les vidéos qu'il regarde, sans les critiquer, sans les juger, juste pour avoir la curiosité de savoir ce qui l'intéresse. Puis s'il lit des mangas, faites le petit effort de temps en temps d'aller regarder. Intéressez-vous à leur univers. C'est la meilleure façon de rester connecté à eux et la meilleure façon de leur donner l'envie de s'intéresser un peu à votre univers aussi.
Et de les comprendre. Hein.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que c'est fou à quel point tout tient à ce qu'on est amené à valoriser. C'est-à-dire qu'on est on a tellement été amené ces dernières années à valoriser la performance que c'est l'obsession de beaucoup de parents que leur enfant soit performant, réussisse bien, parce que c'est vraiment ce qui est valorisé. Alors que le bien-être, je sais pas, je pense que comme aujourd'hui, ça commence à changer, mais ça reste quand même très intangible, ça paye pas les factures, entre guillemets, par rapport à d'autres cultures qui sont beaucoup moins portées sur le travail. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est de me dire, en fait, tout ça est construit et pas du tout naturel, quoi. Et que si on changeait... Est-ce que toi, tu souhaiterais qu'on change ce paradigme ?
Moi, à mon petit niveau, je pense que j'ai pas à le souhaiter ou pas le souhaiter. Ce que je constate, en tout cas ce que les sociologues nous disent, c'est qu'il y a eu aussi un passage de ce qu'on appelle des valeurs intrinsèques, qui sont au fond la façon dont on construit son identité, son rapport aux autres, une communauté, une société, des valeurs morales, politiques, etc., vers un surinvestissement de ce qu'on appelle des valeurs extrinsèques. Les valeurs extrinsèques, c'est la façade sociale. La réussite, quand on dit réussir, en fait, c'est la façade sociale. Les parents sont très fiers de dire « mon enfant, mon fils, ma fille, fait ça, telle position extraordinaire, il faut éblouir les autres parents ». Et après, quand on se rend compte qu'en tant que parents, ils ne sont pas forcément très heureux quand ils ont atteint cet objectif-là, ça interroge tant les enfants que les parents et notre société en entier. Il y a un auteur formidable qui n'est pas très connu en France, mais beaucoup plus connu outre-Atlantique, qui s'appelle Viktor Frankl, qui a écrit sur les thérapies existentielles.
Tellement Viktor Frankl.
Et il dit un truc, il parle de choses passionnantes, le sens de la dignité, le sens du lien, le sens qu'on peut donner à son existence. Et il explique un truc qui n'est pas si simple à comprendre, mais que je pense être essentiel à transmettre à nos jeunes. C'est la différence entre les objectifs et les valeurs. Les objectifs, c'est quelque chose que tu peux atteindre. Et une fois qu'il est atteint, la question, c'est next. Et c'est angoissant. Un chanteur qui a un succès, une chanteuse formidable, il y a l'angoisse du deuxième album. Un auteur qui a... Il y a l'angoisse du... Donc, il y a toujours un objectif après. C'est jamais terminé. Et je trouve que c'est intéressant de parler de ça aux jeunes. de réfléchir aux valeurs, à des choses qu'ils ne peuvent pas atteindre, tu ne pourras jamais l'atteindre. Tu peux juste tendre vers, plutôt que réussir quelque chose. Réussir, c'est s'exposer à être déçu, parce que, en fait, la réussite, il y a toujours quelque chose de creux, de vide, de décevant. Moi, j'ai ce souvenir-là, et j'en discute beaucoup. Je soigne un certain nombre de gens qui passent des concours, etc. Et puis, je repense aussi au concours de médecine de l'internat. Il y a toujours quand même ce post-coitum animal triste, quoi. Il y a ce côté, une fois que tu l'as eu, so what? Donc, il faut raisonner autrement. Et ça, on l'a peut-être un peu perdu de vue aujourd'hui.
Pourquoi est-ce qu'on recherche autant la poursuite d'objectifs si ce n'est pas ça qui nous épanouit?
Parce que c'est rassurant. Parce que se dire que nos enfants vont arriver à une position sociale, c'est se dire qu'ils seront en sécurité. Et ça, tout bon parent se dit en numéro un, la sécurité pour mes enfants. C'est la base de tout, etc. Sauf que c'est quoi la sécurité? C'est quoi avoir un enfant qui est en sécurité? Est-ce que c'est un enfant? Moi, j'en vois des polytechniciens qui font des attaques de panique et qui ont des idées suicidaires et qui ont pourtant des super postes et des époux, des épouses magnifiques, une super. C'est quoi être en sécurité? Je ne sais pas ce que ça représente pour toi la sécurité. Je pense que il n'y a pas de définition univoque. Et bien sûr que c'est plus facile quand on a de l'argent que quand on n'en a pas, quand on est en bonne santé dans une société qui nous permet de faire des choses, évidemment, et dans une démocratie plus que ailleurs. Mais c'est pas forcément suffisant pour assurer les conditions du sentiment intérieur de sécurité. Si je te pose la question, c'est quoi pour toi être en sécurité? Quand est-ce que tu pourras dire un jour je suis en sécurité?
C'est spontanément, je me dis c'est de ne pas avoir peur. Est-ce que c'est atteignable?
Peur de quoi?
Déjà, peur de l'autre. Les femmes sont quand même pas vraiment en sécurité dans ce monde. Peur de manquer. Peur d'échouer. Peur de décevoir. Je ne serai donc finalement jamais en sécurité, je crois.
Il y a aussi la peur de la mort. On parlait de Viktor Frankl, c'est quelque chose d'assez central, qui revient beaucoup chez les jeunes. Je trouve plus fort maintenant, d'ailleurs, avec la génération présente, qu'il y a quelques années. Donc, toutes ces peurs-là, est-ce qu'on peut les dépasser? Bien sûr que non, on ne peut pas les dépasser, on va mourir un jour. Qui peut nous assurer qu'un jour on ne connaîtra pas la précarité? Qui est à l'abri de déclencher un cancer demain? Personne. C'est quoi la différence d'ailleurs entre un anxieux et un non-anxieux? C'est une discussion que j'ai souvent avec mes patients. Les personnes non-anxieuses qui ne souffrent pas de troubles anxieux. C'est pas qu'elles sont débiles et qu'elles ne se disent pas qu'elles ne vont pas mourir un jour, qu'elles ne peuvent pas avoir un cancer ou vivre tout un tas de choses terribles. C'est qu'elles ne vont pas accrocher cette pensée et ruminer dessus. L'anxieux va accrocher, ruminer, tourner autour de ça. Ce qui voudrait dire que le sentiment de sécurité dépend pas tant des conditions extérieures de ce que tu vis que de ta capacité mentale à le traiter et à te dire que peut-être il y aura des solutions. Et que peut-être c'est pas un problème actuel. C'est Mark Twain qui était un grand anxieux, disait « J'ai eu énormément de soucis dans ma vie, la plupart ne sont jamais arrivés. » Et donc la façon dont on se construit mentalement et dont on aide nos jeunes à se construire, c'est aussi une modalité de, on dirait cognitive, une modalité de réflexion autour de justement ne pas être en permanence en train de faire la liste de tous les soucis qu'on n'a pas encore et de trouver les solutions pour s'en prémunir sans vivre aujourd'hui.
Mais est-ce vraiment un choix? Personnellement, et voilà, j'en ai parlé dans mon dernier livre, j'ai eu des problèmes de santé mentale, j'ai vraiment réalisé, et d'ailleurs du coup j'ai énormément d'empathie pour toutes les personnes anxieuses qui nous écoutent, on ne choisit pas de ruminer.
Non? Mais si tu regardes bien, on a une société qui ne nous incite pas beaucoup à être dans l'instant présent. Alors, il y a un énorme regain d'intérêt, et je trouve que c'est une bonne chose. Pour moi, je suis fasciné par le bouddhisme, je pense que le mindfulness, les thérapies de pleine conscience ont énormément apporté. Mais notre société, et il ne faut pas tout jeter à la poubelle, on a une société extrêmement riche d'un point de vue intellectuel, mais amène beaucoup à se déporter de l'instant présent. À être beaucoup dans la réflexion sur le passé. Notre cerveau est une incroyable machine à voyager dans le temps, dans le passé, dans les souvenirs. Et puis une machine à essayer de prédire l'avenir, ce qu'on fait très très mal en réalité. Et quand on est anxieux, et on a une tendance naturelle à l'être, parce que c'est un mécanisme de survie. T'imagines, il y a 10 000 ans, si on se promenait dans la forêt, qu'on voyait un buisson remuer, si on était optimiste et pas un peu anxieux, on se disait « Oh, c'est la brise de printemps ». Il fallait mieux être un peu anxieux, se dire c'est peut-être les prédateurs, etc. On avait plus de chances de survie. Donc notre cerveau, il est configuré sur le mode prédire des dangers. c'est plus efficace en termes darwiniens. Mais quand c'est un mode de pensée permanent, ça peut devenir une souffrance. Or, on a une société qui est plus portée sur anticiper l'avenir. On parle sans arrêt à nos enfants de préparer leur avenir. Mais en fait, le présent, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant.
Il faut relire Frankl aussi. C'est vrai que cette distinction, personnellement, ça a été vraiment grande source de réflexion et de réassurance, cette distinction entre bonheur et sens. Parce qu'on nous dit, l'injonction au final, c'est quand même d'être heureux, il faut être heureux. Ce qui, au final, n'est qu'éphémère, n'est jamais durable. Ce sont des moments de bonheur. Alors que le sens, mais c'est un peu ce que tu disais avec les valeurs, en fait, ça se pratique. Ça peut être permanent, en fait. Si on exerce nos valeurs, si on a un sens dans notre vie, c'est une boussole qui est, à mon avis, bien plus concrète et plus durable que la recherche du bonheur.
Oui, et d'ailleurs, peut-être que les enfants ont cette capacité au bonheur, à un bonheur plus pur que celui que nous avons quand nous sommes adultes. Il suffit de les regarder jouer pour voir les éclats de rire, etc. Justement parce qu'ils savent, peut-être plus que nous, mieux que nous, être dans l'instant présent de ce qu'ils vivent. Ils sont pas en train de se dire « est-ce que je cotise suffisamment pour ma retraite plus tard ?» Ils sont en train de jouer sur la balançoire pour de vrai, et le lien, il est vrai à l'autre. Et dans ce sourire, il n'y a rien d'autre que quelque chose de pur, de ce rapport à l'instant et à ce moment joyeux passé ensemble. Il faut essayer de se reconnecter un peu à ça. Les philosophes l'ont dit, d'ailleurs je vais peut-être faire hurler les philosophes, mais sur la question des métamorphoses et des transformations jusqu'à l'âge adulte, parmi eux, il y en a un qui, beaucoup vraiment élaboré sur ce sujet, mais il y en a un qui a, je trouve, dit quelque chose tout à fait, en tout cas moi, qui m'a beaucoup parlé, c'est Nietzsche dans son Zarathoustra, qui dit que pour devenir le surhomme, alors chez lui, le surhomme, c'est pas le surhomme nazi, hein, c'est plutôt le poète, c'est-à-dire celui qui crée, celui qui invente, eh bien, il faut passer par trois phases. Et la première phase, c'est chameau, puis ensuite lion, et puis ensuite enfant. Et le chameau, et c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose, je trouve, de très très juste dans cette métaphore nietzschéenne. Le chameau, c'est la soumission, c'est porter les fardeaux qu'on nous transmet, que la société, les injonctions nous transmettent. On a été cet enfant soumis, on a été obéissant, on porte nos valises. Le lion, c'est, on parlait de la crise d'adolescence, c'est la rébellion, c'est celui qui dit non. C'est celui qui se met en colère, qui dit je ne veux plus de ces normes, elles sont dépassées, vous êtes des momies d'idées qui chiaient du marbre, en gros, hein, c'est ça, et on veut autre chose et autrement. Et il dit le stade ultime, c'est l'enfant. Il dit pas c'est l'adulte, il dit c'est l'enfant, c'est-à-dire la capacité à réinventer le monde avec des yeux d'enfant. À ne pas juste reproduire des momies d'idées de la génération d'avant et répéter et redire la même chose. C'est pour ça que je te dis à toi et aux jeunes de ta génération, on compte sur vous, quoi. C'est vous qui êtes porteurs de l'espoir, de l'avenir, et il faut qu'on vous aide à ça. Il y a quelque chose d'un peu hyperbolique dans votre génération, c'est-à-dire que les générations d'avant avaient toujours l'espoir de quelque chose de mieux pour leur futur. Et on est à ce moment précis de l'histoire. Je ne sais pas si c'est le déclin de la civilisation occidentale, mais on est à ce moment précis de l'histoire où vous n'êtes pas sûr que votre avenir sera meilleur que notre présent, pour tout un tas de raisons. Et donc, je pense que vous avez encore plus besoin qu'on soit là, accompagnant et soutenant, et plutôt qu'hypercritique et moralisateur, comme je trouve, tant de gens le sont.
Qu'est-ce que tu dirais à un ado qui viendrait te voir demain et qui dirait, voilà, moi, j'ai jamais appris à gérer mes émotions?
Oui.
Et j'aimerais apprendre à le faire.
Je dirais, c'est dommage qu'on fasse pas ça un peu à l'école. Alors ceci dit, il y a des pays qui le font, les pays nordiques le font dès la maternelle. On apprend les émotions, on apprend l'empathie, et c'est quelque chose qui devrait être enseigné très tôt. On parlait tout à l'heure du rapport à l'instant présent, d'apprendre aux enfants des petits exercices, et je pense que plus on l'apprend tôt, mieux c'est. De yoga, de méditation, de petites choses très simples qui pourraient être introduites très facilement. Et les enseignants seraient ravis qu'on leur apprenne ça aussi. Donc je pense qu'on a un énorme travail. Tu vois, je reviens sur le mot d'éducation. L'éducation, ça devrait être beaucoup plus large que l'éducation au sens où on l'entend ici en France, d'une sorte de corpus théorique, mais de rapport au monde, de rapport aux autres, de savoir être, et pas juste de savoir. Et donc oui, ben, c'est dommage que ça n'ait pas été appris. Je poserai la question de savoir aussi quels ont été tes modèles, parce que si on ne l'a pas appris à l'école, on l'a bien appris quelque part, et donc des figures d'attachement dont on parlait tout à l'heure. Donc comment c'était géré à la maison, les émotions, quand un souci survient, est-ce que les figures d'attachement l'ont géré plutôt sur un mode hyper anxieux, sur un mode colérique, sur un mode apaisé, sur etc. Donc quelles ont été un peu tes grandes... On a besoin de mettre dans l'existence que ce soit dans nos apprentissages professionnels ou émotionnels, quels sont tes modèles dans le domaine, et puis qu'est-ce que tu aimerais réussir à modifier. Après, je pense qu'il y a des choses très simples. Souvent, les gens ont l'impression qu'il faut partir dans des choses compliquées. Parfois, simplement, le sport peut aider. Ça peut être magique. Je pense à l'adolescence en particulier. On a là aussi un grand chemin à faire dans notre pays. Je pense que nos ados gagneraient à passer plus de temps en extérieur l'après-midi, un peu moins de temps. Je pense qu'on les fait se lever trop tôt aussi. C'est une mauvaise idée, 8 heures du matin pour des ados qui s'endorment à 1 ou 2 heures du matin. Donc il y a un truc à travailler sur le sommeil et sur les rythmes, sur le bien-être. Et puis je pense qu'on a des enseignants, j'en soigne beaucoup, qui sont eux-mêmes très stressés et qui du coup engueulent les ados, les collégiens, et leur transmettent du stress et en font des classes d'anxieux. Donc je pense qu'il ne faut pas juste l'apprendre aux jeunes, il faut l'apprendre à toute la société et que... faire changer les mentalités, c'est à un niveau très global que ça se passe.
Est-ce qu'on peut changer sa manière de gérer ses émotions? Si justement, pendant l'adolescence, on n'a pas eu des modèles extrêmement sains, ou si on se rend compte qu'on est peut-être trop impulsif, peut-être qu'on est trop revanchard, est-ce que la thérapie, et finalement juste la pratique, permet le changement?
Oui, bien sûr. Alors déjà, j'ai une très bonne nouvelle. C'est que le cerveau va maturer tout au long de la vie et que l'impulsivité, c'est quelque chose qui diminue en vieillissant. On s'apaise un petit peu, il y a quelque chose d'un peu moins impulsif. Le cortex préfrontal continue de maturer, de mûrir jusqu'à 25, 30, 35 ans. Le cortex préfrontal, c'est cette partie de notre cerveau à l'avant qui anticipe les conséquences et qui freine. Et plus à l'arrière, on a le système limbique et le cerveau des émotions, lui, il mûrit plus vite. Au fond, un adolescent, c'est comme un pilote de Formule 1, mais un peu myope, quoi, qui n'a pas encore les bonnes lunettes. Donc ça va très très vite, mais ce n'est pas forcément bien anticipé. Et cette maturation, elle va se faire de toute façon chez tout le monde. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en avançant, on mûrit et on est moins impulsif. Après, on apprend aussi des expériences de vie, mais il y a expérience et expérience. On peut vivre des bonnes expériences de vie, des expériences qui nous transforment, qui nous transportent, qui nous font grandir, rencontrer des gens qui nous aident. Ça peut être en thérapie, ça peut être des amis, ça peut être une relation sentimentale qui va nous aider à nous construire. Mais on peut aussi, à l'inverse, vivre des expériences traumatisantes, déstructurantes, qui vont nous fragiliser, qui peuvent être traumatiques. Et donc là, on va avoir besoin d'être aidé. Alors c'est un vrai sujet, la question de la santé mentale, on ne le traitera pas, je crois, dans ton podcast, mais tu sais, il y a des déserts médicaux, tout le monde n'a pas la chance, moi c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire certains ouvrages, c'est que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller consulter un psy, puis ça coûte cher aussi les psys, et donc on a des grands besoins en santé mentale qui sont mieux identifiés, mais on a aussi des déserts médicaux, et c'est pas si simple de savoir comment adresser ces besoins-là chez les jeunes.
Tout à fait, sachant que même pour beaucoup d'entre eux, c'est même encore difficile de réaliser qu'ils ont besoin d'aide.
Oui. C'est pour ça que ton podcast est précieux et c'est pour ça que je dis à ceux qui nous écoutent, si vous avez des idées noires, si vous êtes en souffrance, il y a un numéro vert national, anonyme et gratuit, qui est le 3114, où vous aurez un professionnel de santé mentale au téléphone, même un dimanche à 2h du matin, si vous avez des idées très très noires. Et puis on essaie de vous aider, de trouver des solutions, il y a toujours des solutions. Et puis quand vous voyez un de vos amis ou une de vos amies qui va pas bien, demandez-lui, et toi comment ça va ? Tendez une main, on peut tous sauver des vies. C'est pas qu'une histoire de professionnels de santé mentale.
C'est vrai. David, c'est l'heure de l'interro-surprise.
Aïe, aïe, aïe.
Je vais t'affirmer finalement quelles petites vérités générales et tu vas me dire si elles sont vraies ou fausses. Et voilà, tu peux développer en une phrase pourquoi. On prend moins au sérieux la souffrance psychique des jeunes que celle des adultes.
Ah oui, c'est vrai, malheureusement. Et pourtant, elle est plus forte, puisque c'est devenu la première cause de mortalité chez 15-30 ans, c'est le suicide. De mortalité. Et c'est des vies qu'on peut sauver.
C'est dingue. Ouais,
on a 10 000 morts par an à peu près. Ça a un tout petit peu baissé, 9 000, mais on est à quasiment 10 000 morts. Sur les routes, on est à 3 500 morts par an. On a beaucoup diminué. Ça veut dire que quand on fait des campagnes de prévention, ça marche. Ben, les campagnes
pour
de prévention.
La santé mentale aussi, quoi.
Ben oui, on les voit pas. On les voit pas. C'est dommage parce qu'on est année grande cause nationale santé mentale et on aimerait le voir de façon un peu plus
concrète.
Exactement.
L'ennui est toxique pour le cerveau des jeunes.
Non, c'est l'inverse. Les jeunes ont de plus en plus de mal avec l'ennui. En effet, les écrans sont une réponse immédiate. C'est extraordinaire, on a un petit compagnon qui donne accès au monde entier. Je vais pas cracher sur les écrans, moi le premier, je suis dingue de ces trucs-là. Mais néanmoins, on n'apprend plus à s'ennuyer. Et c'est quand on s'ennuie qu'on peut imaginer, rêver, repousser les frontières de quelque chose. On a des études, une étude de Princeton qui montrait qu'on est meilleur sur certaines tâches quand on s'est ennuyé pendant 15 minutes. Hein, les chercheurs qui sont des petits filous vous mettent dans une pièce, vous savez pas pourquoi, et dans un cas, vous pouvez attendre avec votre téléphone portable, et dans l'autre cas, vous attendez sans rien et donc vous vous ennuyez. Eh bien, on est meilleur sur le plan cognitif quand on s'est ennuyé, on est plus créatif notamment. Donc, dites à vos enfants, quand ils vous disent « mais je m'ennuie, je veux ma Switch », dites-leur de temps en temps « mais c'est pas grave, mon petit chouchou, de s'ennuyer, c'est bon pour ton cerveau ».
Aller mal à 25 ans, c'est un signal d'alerte.
Oui et non. D'abord parce qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'on peut aller très mal à un moment donné, surtout à cet âge-là, et puis se récupérer très très bien, très vite. Et moi, j'ai une belle collection de mots et de cartes postales et de photos que j'ai reçues de gens qui, à 25 ans, allaient extrêmement mal au point d'être hospitalisés ou de commettre le pire. Et puis, qui, quelques années après, m'envoient des photos de leur bébé tout mignon ou de leur mariage ou un petit mot comme ça, un petit témoignage. Ça, c'est vraiment une récompense, peut-être la plus belle récompense dans mon métier. Et donc, de garder toujours l'espoir. Moi, je dis souvent aux gens, les émotions, c'est un peu comme le temps qu'il fait. Il peut faire très gris, très nuageux avec l'orage, avec le tonnerre, ça peut être terrifiant. Mais il faut se souvenir que ça ne va pas durer. Et que nos émotions, comme le temps qui passe, le printemps reviendra à un moment donné. C'est Camus qui a écrit cette phrase très très belle. J'ai découvert, au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Et c'est le génie de Camus, il dit pas « après l'hiver vient le printemps », au milieu de l'hiver, au milieu de la tempête, j'ai découvert en moi un invincible été. Nos émotions sont par essence fluctuantes, on parlait du bouddhisme qui le dit bien, l'impermanence des émotions, ça va changer, ça va bouger, et parfois il faut être aidé, c'est comme une vague, il faut pouvoir la supporter, il faut des aides, je redis, il y a des aides, c'est important de le savoir. Parfois on croit qu'on est seul, parce qu'il y a pire que souffrir. Et souffrir et croire qu'on est seul. Et puis je redis le 31-14, mais il y a toujours parfois un ami, une personne, quelqu'un à qui on peut parler, on n'ose pas, on a honte, faut pas avoir honte, faut oser, et faut savoir être là et donner son temps pour les autres.
Mmh. Ouais, j'allais nuancer, mais tu l'as précisé, parce que ce que je trouve un peu traître avec finalement cette idée que après la pluie vient le beau temps, ou trouver l'été au milieu de l'orage, c'est que C'est peut-être croire que du coup, on n'a pas besoin d'aide et que ça va passer. Ça va aller mieux. Parfois, l'hiver est long.
Oui,
parfois, l'hiver est très long.
Oui, tu as raison.
Il faut aller chercher le printemps.
Bien sûr.
Il ne va pas arriver, il ne va pas tomber du ciel.
Bien sûr.
Pour terminer, on va prendre les questions des élèves. On a une question d'Éléonore. Comment construire son identité quand on doute constamment de soi ?
Éléonore, c'est une super question et bravo de douter de soi. Je pense que c'est la meilleure façon de construire son identité. D'ailleurs, nous vient depuis l'Antiquité grecque le fameux « connais-toi toi-même », c'est l'œuvre d'une vie, et donc il faut s'y efforcer petit à petit, c'est comme un grand puzzle, et se dire que ça va être passionnant, Éléonore, de découvrir petit à petit tout au long de ta vie qui tu es.
On a ensuite une question de Marion qui nous dit « comment prendre des décisions avec lucidité quand on va mal ?»
Ah, j'aimerais bien avoir la réponse à ça. Je ne suis pas sûr moi-même d'être capable de prendre des décisions avec lucidité, parce que quand on est dans un état émotionnel, de débordement émotionnel, précisément, notre cortex préfrontal, dont on parlait tout à l'heure, cette partie à l'avant de notre cerveau qui est capable d'anticiper et de raisonner, eh bien, elle est un peu démunie et n'arrive plus tellement à raisonner. Donc, il faut apprendre à respirer, en gros. Il faut d'abord apprendre à calmer les émotions. On ne peut pas prendre des bonnes décisions quand on est noyé dans ses émotions. Il faut d'abord calmer le système limbique, apprendre à respirer, à calmer. Une fois qu'on est un peu calmé, à ce moment-là, on réfléchit. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Notre cerveau des émotions, il est toujours prioritaire. C'est une question de survie. S'il y a un serpent qui va te piquer, une voiture qui te fonce dessus, il ne faut pas que tu raisonnes. Oui, c'est un camion 35 tonnes, l'énergie est égale à un demi de la masse ou à la vitesse au carré, ça c'est très très mauvais. Il faut le système limbique qui te fait sauter sur le côté. Donc ce système des émotions, il est toujours prioritaire et plus fort que le cerveau de la raison. C'est lui qu'il faut cibler en premier, lui qu'il faut calmer en premier.
Dernière question de Clément. Comment apprend-on à devenir un adulte sans tomber dans le cliché de l'homme fort ?
Ah, ça aussi c'est une super question, Clément. Je crois qu'il faut se dire que les êtres humains, on est multiples. à l'intérieur. On n'est pas juste une seule chose unique pour toute la vie. Rimbaud disait « je est un autre ». On est plein de... C'est comme une équipe. On est plusieurs parties à l'intérieur de nous. Il y a une partie plus anxieuse, une partie plus sûre de soi, une partie qui a envie de faire ça. Il faut, là aussi, grandir. C'est peut-être apprendre à écouter toutes ces parties à l'intérieur de nous et les réconcilier entre elles pour qu'on puisse faire un voyage sympa avec tout le monde sans oublier aucune de nos parties.
Et pour terminer, David, je vais te poser la question signature du podcast. Même si je doute du fait que tu vas pouvoir y répondre, mais même si tu ne sais pas y répondre, moi je trouve que de notre entretien, je saurais ce que tu pourrais répondre. Comment tu définirais le fait de devenir adulte? C'est quoi devenir un adulte?
Mais j'aimerais bien d'abord t'écouter dire ce que tu penses que je dirais. Et puis je te dirai si je suis OK avec ça ou pas.
Je trouve que de ce que j'ai ressorti de notre conversation, implicitement, c'est que le fait d'être adulte, c'est d'avoir ce sentiment de sécurité.
Alors il y a ça. J'ajouterais autre chose. Et moi, le fait d'avoir eu des enfants m'y a beaucoup aidé. C'est le sentiment de responsabilité pour les autres. C'est mettre aussi en sécurité les autres. Ça, les enfants nous forcent, nous obligent à ça. La relation sentimentale aussi, évidemment, nous fait grandir.
Merci beaucoup, David.
Merci.
Et merci pour ce que tu fais, pour les jeunes, mais aussi pour toutes les personnes, pour aller bien, finalement, parce que c'est ce qu'on mérite.
Merci à toi, c'était très intéressant, très riche.
Adolescence est un podcast original de France Inter.